avis critique.
Raphaël Bourgois. Les idées au banc d'essai, avis critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui posent dans des registres très différents cette question: sommes-nous à l'aube d'une nouvelle dérive dictatoriale? Dans Récidive 1938, publié au PUF, le philosophe Michael Fossel se fait historien et plonge dans la presse française de cette année charnière, explore l'actualité politique, sociale, économique, vue de l'extrême gauche à l'extrême droite. Alors que le thème du retour des années 30 revient comme une antienne, il traque les signes et révèle les conditions de l'affaiblissement démocratique. Un souci que partage Laurent Dubreuil dans « La dictature des identités » publié chez Gallimard. Bien qu'il perçoive un tout autre danger, l'essai décrit en effet un despotisme démocratisé, une dictature moralisatrice qui gagne les États-Unis où ce philosophe de formation enseigne la littérature, l'émergence d'une politique d'identité. Et en studio pour débattre, Catherine Portevin de Philosophie Magazine. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Et Alyosha Wadlazowski de L'Express. Bonsoir Alyosha.
Bonsoir.
Alors je vous propose de commencer par le livre de Michael Fossel, Récidive 1938, publié donc aux Presses Universitaires de France. L'auteur est philosophe, professeur à l'École Polytechnique et jouit ces dernières années d'une notoriété grandissante, régulièrement invité évidemment sur France Culture. Ce dernier livre a fait l'objet de nombreuses interviews et de quelques comptes rendus dans la presse. Un mot de l'auteur qui a consacré ses travaux d'abord à la figure d'Emmanuel Kant, après, comme il le raconte volontiers, être venu à la philosophie par la lecture de Paul Ricoeur et de sa réflexion sur le mal. Mais c'est un tout autre concept central et massif qui occupe désormais Michael Fossel, celui de liberté, que ce soit dans La Nuit, Vivre sans témoin, c'était chez Autrement en 2017, ou bien entendu L'avenir de la liberté au PUF de la même année. À chaque fois, les réflexions du philosophe sont ancrées dans l'actualité ou même dans ses propres pratiques, et c'est encore une fois le chemin suivi dans cet essai. Alors que le thème du retour des années 30 se déploie dans l'espace public, que les inquiétudes se multiplient face à l'affaiblissement des démocraties, à la montée en puissance de l'autoritarisme en Europe comme ailleurs dans le monde, le philosophe se retrouve un peu par hasard plongé dans la lecture de la presse de 1938, année charnière évidemment, celle des accords de Munich, de la fin du Front Populaire, de la Nuit de Cristal, qui va peu à peu renvoyer au lecteur stupéfait une image de notre présent. S'il prend toutes les précautions d'usage, l'histoire ne se répète pas, il fait tout de même apparaître les conditions qui ont permis la défaite des démocraties, avec une thèse forte, Catherine Portevin, ce n'est pas d'avoir été trop démocratique, mais plutôt de ne l'avoir pas assez été, que la démocratie française est peu à peu tombée, peu à peu sombrée.
Je trouve que ce thème-là, justement, de la faiblesse des démocraties, est un des chapitres les plus intéressants dans le livre de Michael Fossel, parce que le thème de la faiblesse de la démocratie est très présent dans les années 30, mais pour dire exactement l'inverse. C'est-à-dire non pas pour se désoler que la démocratie renonce à elle-même, mais au contraire pour dire que le protocole démocratique, parlementaire, est bien trop long, bien trop compliqué pour faire face à la menace des totalitarismes qui montent aux portes de la France, et notamment, évidemment, Hitler. Et que donc, pour faire face à l'Allemagne, il faut se réarmer, surtout en allant vers un pouvoir fort. Alors, je fais juste un petit flashback sur Michael Fossel, parce que je trouve que c'est un livre qui a l'air, à chaque fois, de plus en plus, il fait des livres qui ont l'air chaque fois différents. On se dit, ça, c'est le livre qui est vraiment très différent. Son livre sur La Nuit, par exemple, avait l'air très différent de son long travail sur Kant ou sur La Consolation ou sur La Raison apocalyptique. Alors, justement, moi, il me semble quand même qu'il y a, du coup, il y a un talent qui se révèle d'une façon assez complète, parce que moi, je mettrais assez bien ce livre-ci en rapport avec son livre qui s'appelait Après la fin du monde, critique de La Raison apocalyptique, ou qui essayait de penser.
Qui a été publié au Seuil.
Voilà, et qui donc analysait cette question de la peur des fins dernières et de l'inéluctable. Je crois que la question de l'inéluctable dans la flèche du temps est un sujet qui évidemment intéresse beaucoup Fossel. Et là, on serait peut-être plutôt avant la fin du monde. Et alors, la chose qui est la plus forte dans sa façon de manier l'histoire, c'est d'une part de revendiquer le fait qu'il n'est pas historien, mais pas de s'en faire une gloire, parce que justement, beaucoup de philosophes quand ils commencent à parler de l'histoire, se mettent en position de surplomb, nous font des philosophies de l'histoire qui sont très importantes, évidemment, il y a des grands exemples, mais Ricoeur le premier, mais lui, il va sur le terrain, d'une certaine manière, il s'est créé un terrain. Et ça, c'est pas très fréquent chez les philosophes. Et l'autre chose qui est très intéressante, c'est sa façon de penser le temps. C'est-à-dire qu'il assume de regarder 1938 avec les yeux de 2018. Hein, on va dire 2019, mais 2018, puisqu'il l'a écrit en 2018. Et que de cette manière-là, il regarde aussi 1938 sans penser à 1940. Et du coup, il évite un écueil qui est très important aussi chez les historiens, c'est-à-dire de lire le passé en connaissant le futur qui va advenir. C'est-à-dire, en gros, Arlette Farge en parle très bien d'ailleurs de cela, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passait au XVIIIe siècle en se disant que les acteurs eux-mêmes ne savaient pas que la révolution allait avoir lieu. Et si on n'a pas cette démarche-là, quand on est historien, on a tendance à voir dans n'importe quelle émeute dans les rues de Paris, les prémices de la révolution. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que du coup, il laisse quand même l'inéluctable suspendu, c'est-à-dire que il ne voit pas dans 38, il n'analyse pas 38 les prémices de 1940, il analyse 1938 comme quelque chose qui fait écho à notre temps. C'est là où son parallèle est vraiment subtil.
Et on va y revenir. De toute façon, c'est tout l'enjeu du titre de ce livre, Récidive 1938. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire que l'histoire se répète, c'est pas répétition 1938, c'est bien récidive. Et donc, d'essayer, comme je le disais en introduction à Lechel Walazowski, de déterminer quelles sont les causes qui ont permis à 1939-1940 d'advenir et voir si on peut repérer, en quelque sorte, des causes similaires aujourd'hui. Mais un mot quand même sur la démarche de Michael Fossel, qui s'est donc plongé dans les informations, dans les journaux de l'époque, et qui nous livre véritablement une lecture de ces événements. Il parle des événements à proprement parler et de leur interprétation dans la presse.
Oui, c'est une passionnante enquête historique, effectivement, sur l'année 1938, presque au jour le jour, en tout cas presque quotidien par quotidien, quotidien au sens à la fois de la journée mais aussi du journal, c'est-à-dire qu'il va puiser sur des ressources effectivement médiatiques, et il le dit, hein, effectivement, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas toute la charge communicationnelle, informationnelle qu'on a aujourd'hui, mais effectivement les journaux participent évidemment de l'état d'esprit d'une époque, d'un moment, et on retrouve, ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, Michael Fossel nous fait participer à une sorte de traversée, hein. C'est vraiment une passionnante traversée où, en fait, en nous donnant les différentes étapes, c'est nous-mêmes, c'est le lecteur lui-même qui se rend compte, effectivement, de la proximité avec aujourd'hui, comme quelque chose qui est une sorte à la fois d'évidence, et c'est le travail du lecteur d'arriver à repérer finalement ces connexions. Michael Fossel parle d'affinité entre 1938 et 2018, et c'est ces moments-là qui sont très intéressants, parce que à l'époque, déjà, il reprend des formules, on nous accable de démentis faux et de fausses nouvelles vraies. Par exemple, on a l'impression qu'on est aussi perpétuellement dans une sorte, évidemment, d'époque où la propagande et l'idéologie nauséabonde commence évidemment à faire son emprise sur les esprits, mais effectivement on a un vocabulaire dans la presse elle-même, et il reprend les citations qui donnent l'impression de fake news. Évidemment, le terme fake news n'y est pas, mais cette idée qu'entre le vrai et le faux, il y a une confusion, et du coup l'impossible devient crédible, c'est très intéressant. Pareil sur le fait que l'économie, par exemple, c'est l'économie et la préoccupation principale du gouvernement. C'est très étonnant, on se dit, voilà, il y a des problèmes évidemment politiques extrêmement graves, et...
L'économie et le fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire le Parlement. Voilà. Le Parlement, Michael Fossel a cette formule, je crois, à un moment, enfin je cite de mémoire, mais la France regarde plus le parlementarisme que Hitler à cette époque-là.
Voilà. Et d'ailleurs, va faire reprocher au parlementarisme, un peu c'est la critique de l'élite, hein, c'est vraiment l'anti-élitisme qui fait que du coup, en affaiblissant encore plus le parlementarisme, qui est déjà assez faible, on croit qu'on va pouvoir effectivement sauver la démocratie, et comme Catherine l'a dit, c'est par l'autoritarisme, par un pouvoir fort que ça va se fermer. Par exemple, l'augmentation de l'impôt sur le revenu de 30%. La taxe de 2%, il y a même la taxe sur l'essence à l'époque. Donc évidemment, la lecture, elle est immédiate. On invite les ouvriers à travailler davantage. Il y a même une répression très forte sur les grèves, hein, et sur les manifestations où le gaz lacrymogène est utilisé. Le parti, au niveau politique, on a aussi l'impression d'une dérive droitière évidente, dont la presse évidemment se fait l'écho. Et il y a même la création de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, créé en 1938. Donc on a effectivement toute une série d'indices qui montrent effectivement les fractures, sur le fait que la société commence à se craquer, les divisions internes commencent à se faire jour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Michael Fossel, d'une certaine façon, nous met les éléments sur la table, il nous les présente, et c'est nous, le lecteur, qui d'un seul coup prenons conscience que effectivement, ce sont, alors évidemment, les choses ne se répètent pas, mais il y a quand même des affinités, des parallèles qui sont très très inquiétants, très intéressants, très inquiétants.
Alors avant d'en arriver à 1938, le livre de Michael Fossel, donc Récidive 1938, publié aux Presses universitaires de France, commence par la lecture par le philosophe d'un article assez effrayant, je dois dire, de Je suis partout, donc le quotidien antisémite qui a fait l'apologie de l'hitlérisme et du nazisme dans ces années-là. Mais c'est un article du 23 juin 1944 sous la plume de Charles Lesca alias Lubiquist qui s'appelle Le Napu. Et Le Napu, c'est une référence à un texte de Léon Daudet qui est une sorte de texte d'anticipation, voilà, avec une arme qui fait disparaître les gens, et un enfant se prononce à cette expression en voyant son grand-père disparaître, Napu grand-père, et donc ça donne le titre à cette fiction. Et dans l'article de Je suis partout, ça devient sous la plume de Charles Lesca, on aura au moins réussi quelque chose pendant cette Seconde Guerre mondiale, et en tout cas si on arrive à réussir quelque chose, c'est évidemment le génocide des Juifs d'Europe, et au moins si on a réussi quelque chose, c'est ce Napu. Et ça fait penser à Michael Fossel que voilà, il est obligé de se rendre compte qu'il y a bien une forme de réussite, avec tous les guillemets que mérite ce terme, en tout cas aux yeux des nazis pendant cette Seconde Guerre mondiale, c'est donc le génocide des Juifs. Et donc ça l'amène à s'interroger sur ses préjugés sur l'époque. Et donc c'est là qu'il fait œuvre de philosophe aussi.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que cette entrée en matière, ce premier chapitre où il écrit cet article, c'est comme une expérience de sidération. C'est tellement, on n'imagine pas il se tient, Michael, il dit pas c'est dégueulasse, mais c'est ce que ça veut dire. C'est vraiment immonde. Parce qu'en plus, il parle aussi du fait que le terme de Napu les Juifs, qui est mis dans la bouche d'un enfant, une redouble ignominie. Ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a vraiment une espèce de dialectique de la défaite et de la victoire. C'est-à-dire qu'au moment de 44, cette extrême droite antisémite n'a pas désarmé et pense avoir et même estime avoir réussi quelque chose.
Elle sait que la guerre est perdue pour Hitler.
Et donc c'est de cela que Michael Fossel part en disant que c'est notre défaite. C'est même, il dit, ma défaite. C'est ma défaite en tant parce que aujourd'hui je suis héritier de ce qui s'est passé. Et là il y a quelque chose à racheter. Il y a quelque chose à. Je suis obligé de me préoccuper de ça. Effectivement, le point de départ de ses choix, parce que comme il assume cette subjectivité, il assume aussi une part qui présente comme du hasard, je ne sais pas, peu importe si c'en est vraiment, mais effectivement, c'est le point de départ de son livre. C'est-à-dire qu'il est d'abord tombé sur cet article-là, parce que, comme on pourrait le faire dans n'importe quel cas, et il a essayé de remonter dans l'histoire de ce journal Je suis partout, pour essayer de voir à quel moment l'antisémitisme furieux est apparu. Ce journal a été créé en 1930, et à ce moment-là, dit-il, il n'était pas forcément dans une obsessionnalité, le thème de l'antisémitisme n'était pas complètement obsessionnel. Il est devenu obsessionnel avec le Front Populaire. Parce que ce qui est très important historiquement, et ce qui explique aussi la reprise, ce qu'a dit Alyosha là, sur toute la politique sociale.
Il s'agit de liquider
le Front Populaire. Et ça commence avec le Front Populaire, pour des raisons politiques, évidemment, dans la peur du rouge, en gros, qui est très, très opérante à cette époque-là, mais aussi parce que Léon Blum est juif. Et il retrouve, Fossel, c'est assez troublant, parce qu'il retrouve que, en fait, le premier dossier de Je suis partout, qui s'appelle Les Juifs, date de 1938, 15 jours après la destitution, la démission forcée de Léon Blum de la présidence du Conseil en avril 1938. Et lorsqu'il démissionne, Léon Blum, dans l'Assemblée nationale, il y a des cris des députés, les Juifs au ghetto. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il se dit c'est 1938 qui est le moment de bascule où les vannes s'ouvrent et quelque chose est en train de, enfin il y a comme une sorte de grosse machine là qui est en train de se mettre en route.
Oui, d'ailleurs pour appuyer cette argumentation, Michael Fossel s'appuie sur la première nouvelle, le premier texte de Sartre, L'enfance d'un chef, qui fait partie d'une série de 5 nouvelles, Le Mur, qui raconte justement l'échec de l'existence, c'est-à-dire finalement le fait que un personnage qui s'appelle Lucien Fleurier, qui est un fils d'industriel et qui va petit à petit essayer de trouver en fait un sens à son existence individuelle et qui va être attiré par cette idéologie fasciste. Et on voit aussi comment justement ici c'est le premier texte, c'est un texte engagé de Sartre de cette époque qui est très très intéressant pour expliquer ça. Et ce que montre Michael Fossel effectivement, c'est d'une certaine façon comment la presse se fait la chambre d'écho de ces débats politiques. Il dit: j'ai lu toute la presse nationale française au lendemain de l'Anschluss, le 12 mars 1938, et je n'ai trouvé qu'un seul quotidien français favorable à l'envoi d'un ultimatum à Hitler, d'une forme de mobilisation justement de la France. Et c'est là où il dit il y a quand même quelques oasis croisées dans cette traversée, cette longue marche dans le désert. C'est l'expression de Michael Fossel. C'est un Henri de Kérilis. C'est un personnage très intéressant dans le livre de Michael Fossel, parce que d'abord c'est un député de Neuilly-sur-Seine, antisocialiste et ultra-conservateur, mais finalement un peu comme Georges Bernanos ou quelques figures comme ça qui viennent, Georges Bernanos qui vient aussi de la monarchie, qui vont se rendre compte de la colère des imbéciles et de cette haine pulsionnelle qui est en train de saisir le peuple, l'opinion, etc. Et donc qui vont être, par patriotisme justement, des gens qui vont être plutôt du côté, évidemment, qui vont être modérés et qui vont même dénoncer justement
du bon côté de l'histoire,
voilà, du bon côté de l'histoire, et vont donc dénoncer l'extrémisme, le fanatisme. Et donc Henri de Kérilis, avec un journal qui s'appelle L'Époque, qu'on peut citer, va justement être un des seuls à avoir ce type de vigilance démocratique. Et c'est comme ça quelques îlots isolés dans ce magma de chaos et de violence. Il y a quelques figures qui ont comme ça, qui arrivent à avoir une sorte de vision de l'histoire ou de réaction très saine par rapport à ce qui se passe.
Alors, puisqu'on parle de la presse de l'époque, je résiste pas de citer le livre de Jacques Bouvresse qui vient de sortir, Les premiers jours de l'inhumanité, où il parle de Karl Kraus et la guerre. Karl Kraus, dont on sait la critique qu'il a portée des médias, et Jacques Bouvresse dans son sillage, en quelque sorte. Ça a été publié chez Hors d'atteinte, et c'est un livre qui répond véritablement au livre de Michael Fossel. Donc j'incite nos auditeurs à lire les deux à la suite, Catherine Portevin, pour montrer que, je dis ça pour montrer que voilà, cette matière, ce matériau de la presse, de l'opinion publique, il ne s'agit pas juste d'aller chercher voilà, les discours sur l'immigration qui nous rappelle aujourd'hui voilà, que quand on se comporte avec les immigrés, quand on se comporte, il faut se rappeler de comment on s'est comporté face aux juifs qui fuyaient le nazisme. C'est vrai que ça apparaît, c'est présent dans ce livre. C'est pas juste ces débats sur le gouvernement technique qui serait bien meilleur qu'un gouvernement démocratiquement élu. C'est des débats qu'on peut avoir aussi aujourd'hui. C'est aussi comprendre ce contexte, cet espace public dans lequel se déroule cette discussion. Et là encore, hein, pour essayer de montrer pourquoi un philosophe s'intéresse à l'histoire de cette façon-là, c'est aussi un travail philosophique.
C'est un travail philosophique, et c'est un travail aussi sur qu'est-ce que c'est que la plongée dans le passé. Il a une remarque très intéressante en disant que quand il a commencé à lire la presse de 1938, il s'est gardé tout le temps d'aller chercher les documents audiovisuels qui existent, photos, enregistrements, évidemment beaucoup radio. Et parce que, alors il a une réflexion que je trouve très intéressante en disant qu'en fait, effectivement, nous, aujourd'hui, quand on est au présent, on a le sentiment, et ce n'est pas du tout, c'est vrai, que l'image et le son, que entendre quelqu'un parler ou voir son image, le rend tout d'un coup, ou voir les images d'un événement, le rend beaucoup plus charnel, plus présent, donc on est beaucoup plus dedans, mais que quand on joue cette question-là au passé, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, les images créent la distance. Parce que la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de... Tout ça crée une espèce de distance. Lui est resté sur l'écrit, parce que l'écrit donne de l'immédiateté. C'est complètement contre-intuitif, comme on dit aujourd'hui. Mais ça, je trouve que c'est une démarche extrêmement intéressante. C'est-à-dire que s'il y a une bataille des mots, parce qu'il utilise ça beaucoup, et c'est vraiment aussi beaucoup une réflexion qui est faite chemin faisant. Hein, c'est pas construit du tout comme une thèse. C'est aussi sur la question de la perversion du langage, la perversion des termes, le terme de démocratie, par exemple, effectivement, dont Trump, Orban ou Bolsonaro. Naro se revendique de la démocratie complètement, ce que n'était évidemment ce qui n'était pas le cas ni d'Hitler ni de Mussolini. Bon, il n'empêche que qu'est-ce que ça veut dire la démocratie quand il s'agit de gouverner par ordonnance, de décider que le Parlement ne sert plus à rien, et surtout pour la presse. Là, on voit très bien comment la responsabilité énorme de la presse et de la parole publique dans la formation des opinions, et donc aussi théorie, des thèmes. Et là, là-dessus, il y a un peu d'Adorno derrière, c'est-à-dire que voilà, les médias de masse ne disent pas forcément que penser, mais ils disent à quoi penser. Et par exemple, à penser obsessionnellement aux Juifs.
Ce livre de Michael Fossel, évidemment, on suit son raisonnement. Il y a quand même une organisation avec ce thème de la défaite qui revient. Ma défaite, la défaite de Blum, la défaite des partis, défaite sociale, défaite de la République, défaite morale, la défaite du sentiment. C'est le dernier chapitre. Il faut qu'on en finisse là. Alyosha Walazowski, mais un mot de conclusion tout de même sur ce livre de Michael Fossel.
Oui, c'est un livre vraiment très très intéressant, effectivement, où les faits, les événements ne sont jamais dissociables des discours qui les portent et des récits qui fondent ces événements, des objets pour aujourd'hui. Et c'est vrai que Michael Fossel montre très très bien qu'il n'est pas du tout à l'époque rentable de défendre des positions nuancées dans une époque en pleine radicalisation. Et ça, c'est vraiment très important, cette leçon.
Et ça nous parle. Michael Fossel, Récidive 1938, c'est aux Presses universitaires de France.
France Culture, Avis critique,
Raphaël Bourgois.
Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous pencher maintenant sur l'essai de Laurent Dubreuil, La dictature des identités, publié chez Gallimard dans la collection Le Débat, un livre qui prend pour cible ce que l'auteur appelle la politique d'identité. Lui qui enseigne la littérature à l'université Cornell aux États-Unis a constaté dans le sillage des Subaltern Studies la montée en puissance chez les étudiants des campus américains de ces revendications identitaires dans des proportions qui frise parfois le ridicule. C'est en tout cas le sentiment de Dubreuil qui s'arrête dans le livre sur l'appropriation culturelle, le droit de ne pas être offensé, les safe zones, autant de coups de canif, nous dit-il, dans la possibilité de vivre ensemble. Pire, les tenants de cette politique d'identité prétendent corriger les structures sous-jacentes de domination et de discrimination en revendiquant un particularisme qui aggrave en réalité ces lignes de fracture. D'une plume ironique et qui sait même parfois se faire acerbe, Laurent Dubreuil détaille des affaires essentiellement américaines qui résonnent toutefois avec l'actualité récente de ce qui s'est passé à la Sorbonne quand des militants antiracistes ont bloqué l'accès à la représentation des suppliantes d'Eschyle, mise en scène par l'helléniste et homme de théâtre Philippe Brunet, en cause une accusation de blackface qui depuis fait beaucoup discuter. Du coup, Alyosha Walazowski, les craintes d'un virage autoritariste exprimé par l'auteur, le risque de censure que font peser ces politiques d'identité sur la culture sont à prendre au sérieux. On est malgré tout face à un phénomène d'abord essentiellement américain, en tout cas dans les exemples qui sont pris ici, et dont il conviendrait de mesurer l'ampleur réelle des deux côtés de l'Atlantique, ce que ne fait pas Dubreuil.
Oui, absolument. Vous avez bien posé le problème. C'est que ce livre de Laurent Dubreuil accuse les gender studies, les post-colonial studies de nourrir les divisions, hein, de propager un poison identitaire, donc avec des termes effectivement très forts qui sont venus des campus américains, où il y a cette guerre entre l'universel et le minoritaire, avec ce qu'il qualifie de dérive multiculturaliste, de dictature des identités. L'adieu à l'universel, c'est vraiment le temps du repli narcissique, le ghetto du genre, de la race, du handicap, de la religion. Donc, et cette idéologie victime de la France postcoloniale qui d'un seul coup fait de la disqualification un exceptionnalisme qui devient effectivement autoritaire, totalitaire, une catégorie au-dessus des autres, en souffrance, en dignité, en exemplarité. Et effectivement, il part d'abord des exemples américains directement. Effectivement, il met en situation évidemment ce qui est en train de se passer. On peut prendre un exemple lorsque, par exemple, dans un service de restauration locale à Oberlin College, hein, qui sert du banh mi, c'est-à-dire un sandwich vietnamien. Le problème, c'est que ce sandwich, ce plat au cochon exotique tel qu'il est présenté, évidemment, n'a pas les saveurs de la recette authentique. Et une étudiante d'origine vietnamienne est scandalisée par ce détournement culturel et donc engage une campagne médiatique donc pour appropriation culturelle au premier degré, donc, c'est-à-dire l'utilisation par une culture dominante d'éléments d'une autre culture sans permission. Ou par exemple, effectivement, à Yale, lorsqu'on organise Halloween, c'est le stigma free, c'est-à-dire sans stigmate, où les étudiants déguisés sont tenus d'être vigilants à partir des costumes, effectivement, pour ne pas heurter la sensibilité des personnes.
Alors, avec cette phrase, ceci est une culture et pas un costume, voilà, avec des images, on voit un Amérindien ou ce genre de... ou une personne habillée dans des costumes traditionnels chinois ou de quel que soit le pays concerné.
Voilà, alors donc c'est vrai que ces situations, Laurent Dubreuil va tirer ce qu'il appelle ce dogme identitaire qui a pris le pouvoir à l'aide de sociodrones. Donc ce sont des moyens de contrôle de sommation identitaire, il appelle ça des appareils téléguidés, donc il a vraiment une analyse très précise. Les formes sociales du trigger warning, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un texte dans un cours, attention à ne pas heurter les sensibilités, il faut prévenir de ce qui pourrait choquer telle ou telle personne. Ou le soft space, c'est-à-dire que les universités doivent avoir des lieux sécurisés pour que les gens qui ont envie de se retrouver à travers
entre eux,
voilà, c'est le même, c'est le diktat du même, puissent le faire. Ou le only shaming, c'est-à-dire online shaming, c'est-à-dire effectivement le fait d'avoir la possibilité de réagir, de se plaindre sur Internet. Et alors, ce qui est complexe dans le livre, c'est que donc on part effectivement de situations réelles. On voit qu'il y a une analyse très concrète de la scène américaine, états-unienne qu'il connaît très bien. Et ensuite, on va parcourir aussi quelques textes théoriques. On va essayer d'aller vers d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets qui sont brassés d'une certaine façon. Ou d'ailleurs, il dit que finalement, ce discours identitaire pourrait très bien se passer de la toile et d'Internet, mais on a fait une arme, évidemment, presque de combat et surtout de pouvoir. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est voilà ces exemples-là. On peut effectivement les trouver effectivement particuliers, effectivement interrogatifs, en disant bon, c'est vrai que là il y a une dérive, c'est un peu ridicule, c'est même un peu exagéré, il faut pas prendre le plat au premier degré par exemple. Mais il y a quelque chose qui me gêne plus, c'est lorsqu'il dit par exemple que la définition de la douleur installe le sujet sur un plan victimaire systématiquement. Et là il parle du deuxième sexe 2.0, donc il passe plutôt au problème des violences sur les femmes, et il dit on ne naît pas femme, on le devient par la victimisation. Et là je trouve que on passe à un autre plan, on passe à une autre préoccupation. Donc il a raison de dénoncer la caricature excessive, la paranoïa, mais il y a des moments où il va trop loin. Et lui-même doit faire attention à ne pas systématiser justement des choses qui sont aussi réelles dans les violences, dans les douleurs des identités.
Catherine Portevin.
Non, mais je crois que justement, il veut systématiser. C'est pas du tout un danger qui lui fait peur. C'est ça qui est assez étrange dans ce livre, où à la fois on peut partager l'impression du ridicule de certaines situations, de certaines revendications. Effectivement, on est dans quelque chose, on se demande même si ça existe, tellement on arrive à des situations totalement abracadabrantes. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est cette espèce de ton. D'abord, il y a un style assez lourd, c'est pas franchement fluide, mais surtout tout peut être dans le ton, dans le pamphlet. Le pamphlet réussi, il faut qu'il ait un peu de panache. Là, il y a quelque chose de d'enserré qui est assez désagréable. Vous disiez acide, acerbe, on pourrait dire acide, une sorte de morgue qui n'est vraiment pas agréable à lire, et qui du coup fait soupçonner en permanence une forme de contre-charge idéologique contre l'ensemble des combats des minorités, alors que dans la réalité je pense que c'est pas ça. D'une certaine manière, s'il est insituable politiquement, c'est parce qu'il veut se rendre lui-même insituable. C'est une c'est une revendication. Et d'ailleurs, ça se termine, sa revendication finale, c'est de plaider pour une apolitique, c'est-à-dire vraiment une force, une façon de se construire soi-même hors les murs de la cité. Donc, il avait déjà écrit un livre qui s'appelle Le refus de la politique, qui était vraiment dans cet esprit-là. Il est en train de rechercher quelque chose de ce genre. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans sa démarche. Et la plupart du temps, quand il défend sa façon de voir lui l'identité et à quoi ça sert comme identité dialogique, identité imparfaite, identité constamment
transitoire,
éphémère. Il reprend beaucoup de choses aussi de la réflexion de Tristan Garcia sur le nous, pour la nous ouvert et large, etc. Donc on est plutôt d'accord avec lui. Enfin, on a plutôt envie de se sentir bien. Et puis il y a que quelques rares moments où il tombe vraiment dans une critique qui est vraiment purement anti-moderne. Alors, c'est vrai que je dois dire, pour être franche, que le fait que ce soit publié dans cette collection, Le Débat chez Gallimard, a induit à peut-être un peu ma lecture. Non pas que j'aime pas cette collection, il y a des textes de grande qualité, mais
on sait que... collection qui est dirigée par Marcel Gaucher et par Pierre Dora.
Voilà, que globalement, il y a quand même un grand fond, là, depuis quelques années, d'une critique de l'anti-moderne, qui peut rejoindre d'ailleurs ce que Michael Fessel disait à propos de la montée de l'anti-modernisme aussi dans les années 30, qui est préoccupante et qui nous réserve quelquefois des espèces de scud comme ça, des ovnis, de gens qu'on ne connaît pas, des auteurs qu'on ne connaît pas bien forcément en France, et qui tout d'un coup nous sortent des théories du grand remplacement, comme ça avait été le cas avec Hervé Juvin, qui aujourd'hui est sur la liste du Rassemblement National aux Européennes.
Alors c'est pas du tout le cas de Dubreuil, Laurent Dubreuil, hein. Il faut le dire.
Non,
en tout cas, c'est pas ce qu'on pressent à la lecture de ce livre, loin de là, puisque vous l'avez dit, il y a avant tout une inquiétude sur une approche qu'on pourrait appeler fixiste de l'identité, hein, ce qu'il appelait le gel des identités, je crois que c'était dans le refus de la politique, qu'il avait ce terme, ou dans l'Empire du langage, je sais plus. Et c'est-à-dire véritablement une inquiétude face à des identités qui prennent le pas surtout et qui deviennent l'alpha et l'oméga de la politique. C'est à partir de là qu'on pense la politique, et ça devient un danger. Et sa critique des subaltern studies ou des gender studies, notamment de Judith Butler, elle rejoint malgré tout un débat qu'on peut entendre en ce moment assez virulent entre un historien qui est Gérard Noiriel et le sociologue Éric Fassin. Donc c'est quelque chose qui anime aussi la vie intellectuelle en ce moment en France, la question de savoir, voilà, qu'est-ce qui est au centre des préoccupations. Est-ce que c'est les questions de classe? Est-ce que c'est les questions de race? Est-ce que cette approche par les minorités, finalement, est le bon outil de l'émancipation? Et on sent que c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans ce livre de Laurent Dubreuil. Mais c'est vrai qu'il y a un ton qui est un ton pamphlétaire, Alyosha Wald-Lazowski, et que donc, c'est vrai qu'il y a une certaine façon de manipuler les exemples qui parfois peuvent désarçonner ou dérouter.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai que le ton est particulier. Hein. Il le dit d'ailleurs. Ma véhémence est requise par la circonstance, c'est qu'il nous faut parler fort contre les hurlements des meutes identiques. Donc c'est vrai que là, il y a comme cette idée de véritablement, attention, je tire un signal d'alarme, il y a véritablement danger. Mais moi, alors, comme il y a aussi une analyse sur les discours et sur les positions théoriques, il cite Judith Butler, vous l'avez dit, Raphaël, il cite aussi à un moment donné Sartre, donc en tout cas les penseurs qui ont influencé, par exemple Césaire.
Qui traite d'imbécile. Hein.
Voilà, mais...
dont le travail sur l'antisémitisme est ouvertement traité de travail idiot.
Bon, en même temps, c'est en 10 lignes, il expédie effectivement Sartre aux oubliettes en quelques lignes. Mais justement, moi je pense qu'il faut quand même s'intéresser sur cette idée de postcolonial. Hein. Le mot postcolonial ne renvoie ni à une période historique, ni au refoulé de la mémoire collective, mais plutôt à une nouvelle approche critique des savoirs et des théories. Et dans l'intérieur même de ces mouvements, les subaltern studies, les postcolonial studies, les postfeminism studies, Omi Baba, Gayatri Spivak, il y a déjà un débat quand même sur différentes identités. On peut pas parler de politique des identités comme ça. Il faut analyser précisément. C'est ce que dit par exemple Édouard Glissant, qui a longtemps étudié aux États-Unis, qui connaît le terrain états-unien. Il dit la créolisation des sociétés modernes s'oppose aux traditionnelles poussées de l'exclusive ethnique, raciale, religieuse et étatique des communautés. C'est dans l'adresse à Barack Obama, l'intraitable beauté du monde au moment de l'élection. Et donc ça veut quand même dire que il y a déjà différents types d'identités qui sont posées à l'intérieur même des postcolonial studies. Il y a les identités, par exemple, systématiques, impérieuses, monolithiques, dominantes. Et de l'autre, il y a ce que dit justement Laurent Dubreuil à la fin, notamment dans sa dimension un peu esthétique ou artistique. Il y a des identités imprévisibles, opaques, inattendues, avec une certaine plasticité de l'identité qui, du coup, c'est ce que Glissant oppose. Il y a l'identité racine et l'identité relation. Et donc, effectivement, dans l'identité-relation, il y a du mouvement, il y a de l'opacité, il y a de l'imprévisible, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une puissance créatrice, finalement, qui peut se mettre à jour. Et il y a tout un vocabulaire de mondialité, de diversalité, de créolisation, qui fait que toute identité, finalement, se construit dans un rapport à l'autre, et dans un rapport de transformation. Donc, voilà, il y a aussi une réflexion sur l'errance des identités, sur le on sait qu'avec des auteurs, justement, comme Glissant, il n'y a pas cette notion de repentance, par exemple, ou de revanche, etc.
Et justement, puisque vous citez Glissant, Alyosha Valazovski, il faut citer ce passage de Laurent Dubreuil où il se revendique en quelque sorte de Césaire, de Fanon, de Mémy pour dire que l'approche actuelle, justement, cette revendication de la politique d'identité contredit le travail de ces gens-là, de Césaire, Fanon et Mémy, parce que ça refuse de reconnaître tout simplement au dominant le droit à la parole. Et par exemple, ça refuse de reconnaître cette relation presque dialectique qui montre que le système oppressif affecte aussi l'oppresseur.
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout ce que vient de dire Alyosha, c'est tout à fait vrai, et Dubreuil ne l'ignore pas du tout, puisque au contraire, il a même commencé ses travaux en travaillant sur les littératures francophones des Antilles, et donc il a rencontré la littérature il parle essentiellement de Césaire, mais enfin, j'imagine aussi Glissant, et surtout il parle de Frantz Fanon. Et c'est tout à fait vrai qu'aujourd'hui, il y a une voix qu'il semble ignorer, mais qui est quand même très intéressante, de la critique de la postcolonialité, par exemple aussi Achille Mbembe, qui est comme tout ce débat-là, il l'ignore complètement, en disant en gros, avant, il y a eu des inspirations justes, de la même manière qu'il peut le reconnaître aussi sur même cette expression même de politique d'identité qui vient des mouvements lesbiens afro-américains dans les années 70, et qui se méfiait aussi de l'essentialisation de l'identité complètement. Et donc, il s'est passé quelque chose, mais il ne dit pas vraiment quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'avant, il y avait des pistes de l'émancipation des minorités, mais qu'aujourd'hui, non. Maintenant, c'est oppressif. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, sauf Internet.
Internet, j'allais y venir, sauf Internet.
Qui est la propagation de l'imbécilité. Voilà. Alors bon, moi, on trouve ces expressions chez Umberto Eco, quand il dit une armée d'imbéciles a plus raison qu'un prix Nobel. Mais quand c'est Umberto Eco qui le dit, alors peut-être que je suis de mauvaise foi, mais quand c'est Umberto Eco qui le dit, il le pense tout à fait. Mais il n'y a pas ce mépris très fort. On a l'impression qu'on est face, dans ces exemples, effectivement, vous parliez de manipulation des exemples, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est face à des hordes d'étudiants complètement décervelés, stupides, qui sont en train et géniards.
Là, il y a aussi l'exemple du banh mi, qui ne savent même pas que banh mi, ça vient de pain de mie français, que c'est déjà vrai. Une appropriation culturelle de la part des Vietnamiens. Mais pour terminer, Alyosha Valazovski, c'est vrai que l'accumulation des exemples ne fait pas une démonstration, et Laurent Dubreuil décrit bien ce que représente la politique d'identité, son cadre, son contexte et même dans certaines mesures sa portée concrète, mais il a du mal à nous indiquer, on l'a dit à plusieurs reprises, le poids réel de ces manifestations, en dehors évidemment d'Internet qui crée ce contexte qu'il rejette manifestement de façon assez virulente. Il termine quand même en donnant des pistes, Laurent Dubreuil, il parle du principe de moindre censure et du principe de moindre contrôle comme devant régir nos échanges, et notamment nos échanges sur Internet.
Oui, effectivement, il parle de cette agression permanente de la censure du diktat. Hein. Il le dit, l'essor des identités politiques siphonne les esprits, annule les âmes et menace les corps. Donc c'est vrai qu'il y a cette violence, et il faut effectivement sortir de cette situation. Et c'est vrai que la toute dernière partie parle de la censure et d'une sorte d'altération justement de nos esprits par rapport à ce poids grandissant. Mais d'une certaine façon, moi j'ai l'impression qu'il retrouve ce qu'il critique initialement, parce que c'est vrai que par exemple l'identité féminine, c'est ni une essence ni une nature, c'est une situation, une lutte contre l'oppression, un combat pour la liberté. Et c'est vrai que d'une certaine façon, il invite à retrouver ce combat pour la liberté. Donc la conscience de l'identité féminine, par exemple, qui est chez Simone de Beauvoir, c'est surmonter justement la fatalité d'une condition, bouleverser la hiérarchie des sexes, jouer sur le masculin, le féminin. Donc c'est vrai que la dernière partie du livre, d'un seul coup, devient beaucoup plus sympathique d'une certaine façon, parce que c'est cette créativité esthétique presque qu'il retrouve. trouve et qu'il valorise. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant dans la solution
et
proposée.
Et puis comme je le disais au début, ça résonne avec ce qui s'est passé récemment à la Sorbonne. Il a cet exemple d'Ariane Nouchkine, le Théâtre du Soleil, qui avait monté avec la compagnie de Lepage Ex Machina, donc une compagnie canadienne, québécoise, l'histoire des Amérindiens du Canada, Kanata, et qui avait eu des problèmes, qui n'avait pas pu se tenir parce que justement le rôle des Amérindiens était tenu par des non-natifs et donc ça avait posé problème. Et on voit à quel point c'est vrai que cette politique d'identité mène à la censure de manière assez mécanique. Et on a vu d'ailleurs récemment Ariane Nouchkine signer ce texte dans Le Monde en soutien à Brunet dans l'affaire de la Sorbonne. Très rapidement,
Alexia Malazowski. Il paraît indispensable aujourd'hui d'inventer des relations à la déconnexion. Donc c'est vrai que ça, c'est exactement
oui,
le...
Enfin ça, si, tous le nombre d'essais qui se termine par l'invitation à la déconnexion, je trouve que ça va 5 minutes.
Enfin, c'est l'avant-dernière page, en
oui,
tout cas, c'est la toute
je sais
fin
bien,
du livre.
C'est un peu la limite, parce que bon, finalement, il faut se déconnecter, d'accord. Bon, mais qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on va faire
bon, on va écouter les signes dans la vie du hasard, jamais exactement identique, toujours autre.
Voilà. On va écouter, je trouve juste plus intéressant de voir que lui, ce qui est intéressant chez lui, c'est surtout son axe, c'est de lutter contre une essentialisation souterraine, une réessentialisation, une renaturalisation des identités. Et donc lui défend évidemment une identité qui laisse possible, qu'il appelle le possibilisme, qui laisse possible avec le donné, nous pouvons donner vie à autre chose que ce qui est prévu. Et ça, je trouve que c'est évidemment une voie intéressante.
Oui, donc on le voit dès la fin, avec cette invitation à la déconnexion. Laurent Dubreuil aborde différents thèmes, mais peut-être qu'on n'a pas assez parlé du thème central de ce livre, Catherine Portevin, qui est celui de l'identité, de sa conception finalement de l'identité. On a parlé de c'est le titre, la dictature des identités, on a parlé de politique d'identité, mais de quoi nous parle-t-il exactement?
Eh bien oui, justement, c'est ça qui est intéressant. Alors je crois qu'il y a un thème que je trouve très intéressant, mais qui ne traite pas complètement, ou qui le traite d'une façon un peu trop caricaturale, qui est la question de l'authenticité. Alors je sais que vous avez parlé récemment du livre d'Eva Illouz, qui l'évoque déjà, sur cette question de l'authenticité, du true self, comme dit le vrai moi, c'est un terme du psychanalyste Winnicott, que nous serions sommés de découvrir ou de retrouver, etc. Et donc, tout ce thème de l'authenticité, effectivement, mérite carrément un livre. Voilà. Mais il l'aborde vraiment au détour des exemples, il est complètement appuyé sur les exemples. En revanche, sa façon, lui, de défendre quand il parle à la première personne, parce que le problème, c'est que on ne sait pas qui il est, et il se refuse, c'est normal, il se refuse, lui, à dire au nom de quoi il parle, au nom de qui, de quoi il... Puisque, justement, il critique justement ce genre de choses, je parle en tant que... Bon, mais finalement, il y a quand même un moment où il ne peut pas s'empêcher de dire quelque chose, et d'ailleurs, ça fait des pages très, très fortes, sur le fait que lui aussi, il a été discriminé, homosexuel, pas en bonne santé, enfin bon, plein d'éléments, disant qu'il a... Voilà, lui aussi a souffert, et c'est sur la question de la souffrance que, justement, il dit un certain nombre de choses en disant, on va pas rentrer là-dedans, quoi. Mais sa façon de voir l'identité ouverte, moi je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement c'est la laisser possible toutes les constructions individuelles. Mais, par exemple, il rejette du côté des belles âmes, en gros, je pense qu'il rejetterait tout le thème de la créolisation de Glissant, toute l'idée d'un cosmopolitisme, du métissage, parce que, et alors après, il retombe sur le fait que, effectivement, le terme de diversité étant utilisé comme on sait, qu'il n'a plus grand sens, effectivement, voilà. Et donc, j'attends, moi, à maintenant, la sortie du livre de Anthony Appiah, qui s'appelle, Repenser l'identité, The Lies That Bind, donc, qu'il cite rapidement, qui va être, je pense, un grand livre sur l'identité, et qui va paraître, normalement, à l'automne, chez Gallimard.
Et bien, si on est encore là, on en parlera évidemment Catherine Portevin. C'est vrai que cette politique d'identité, elle est fondée sur la question de l'authenticité, de la conformité, de la destinée. C'est un peu le triptyque déterminé par Laurent Dubreuil qui, comme vient de le dire Catherine Portevin, mais cette question aussi de la blessure, c'est articuler toute une politique autour de cette notion de la blessure, ne pas blesser l'autre, faire attention évidemment à sa sensibilité, construire ses safe space, ses endroits sûrs où il est, voilà, où il ne risquera pas d'être choqué ou en tout cas d'être un peu mise en difficulté, Alisha Balazowski, c'est la conclusion finalement de ce livre.
Bah oui, c'est la conclusion de ce livre où il dit que finalement la distinction entre identité modérée et identité extrémiste est un leurre. L'identitarisme est tel que il n'y a plus d'entre deux justement d'espace d'hybridité, d'espace d'évolution. Donc et d'ailleurs le terme qu'il emploie tout le temps n'est pas. Il explique, ça c'est très intéressant dans ce livre. Il s'appuie sur le vocabulaire anglo-saxon, hein, sur une sorte de traduction terme à terme du vocabulaire américain. quelqu'un, justement, on en a parlé, safe space, et lui dirait, voilà, comme j'ai pas mis d'autocollant sur le bureau de mon bureau de professeur, ça pourrait être un unsafe space, vu que je ne veux pas justement rentrer dans ces logiques d'identification permanente de lieux et d'espaces comme ça, cloisonnés, quadrillés, enfermés. Donc, et justement, la politique des identités, pour conclure, c'est pas une traduction de politics of identity, mais plutôt de identity politics. Et cette nuance fait que l'enjeu pour lui, c'est véritablement que toute la politique, sans exception, est totalement saturée et bloquée par cette notion d'identité. Donc pour lui, voilà, ça crée un tel poids, un tel enfermement, qu'il n'y a plus d'issue possible.
Moi, je crois qu'il a fait sienne la phrase de Tristan Garcia, qui dit à la fin de son livre « Nous », faut-il en finir avec les identités ? Non. Faut-il renoncer à en finir avec les identités ? Non.
Merci Catherine Portevin. Laurent Dubreuil, La dictature des identités, c'est publié chez Gallimard dans la collection Le Débat.
L'instant critique.
L'instant critique pour conclure cette émission, Catherine Portevin, Alyosha Wald-Lazowski, sur des revues. Vous êtes chacun revenu avec des revues qu'on peut dire anciennes. C'est pas vraiment les créations du moment. La revue Esprit et la NRF pour Catherine Portevin, Esprit, donc Alyosha Wald-Lazowski. Le dernier numéro.
Oui, le dernier numéro, parce que justement, c'est l'actualité qui m'y invite. Il y a une coïncidence entre l'actualité. Julian Assange, qui vivait depuis 6 ans isolé à l'ambassade équatorienne de Londres, a été arrêté jeudi 11 avril 2019 parce que les autorités équatoriennes justement ont décidé de laisser entrer la police britannique, et les États-Unis ont aussitôt adressé une demande d'extradition visant donc l'Australien fondateur du site WikiLeaks. Et le lanceur d'alerte américain Edward Snowden, ancien employé de la CIA, a aussitôt réagi sur son compte Twitter. This is a dark moment for press freedom. C'est une journée sombre pour la liberté de la presse. Et justement, c'est d'ailleurs à Edward Snowden que la dernière livraison, donc de la revue Esprit, consacre son dernier numéro d'avril 2019. Le dossier est intitulé L'alerte, un enjeu démocratique. Et il se conclut par un passionnant entretien avec Patrick Veil, chercheur au CNRS, laboratoire d'histoire sociale du XXe siècle, qui explique que Snowden s'est vu refuser par la France l'entrée sur son territoire comme demandeur d'asile, car la protection n'est accordée que si la personne requérant l'asile est déjà sur le territoire national, c'est d'après la Convention de Genève de 1951. Or, Snowden réside, on le sait actuellement, à Moscou. Mais Patrick Veil explique que la France dispose d'un asile constitutionnel depuis 1998. Et voilà ce que Patrick Veil dit dans cet article. Il faudrait un grand mouvement citoyen pour demander qu'on lui accorde l'asile afin de prévenir toute immixtion du gouvernement dans la procédure. Au cours de celle-ci, devront être déterminés si Edward Snowden a combattu pour la liberté au sens de l'article 4 du préambule de 1946, ce qui est indiscutable à mon sens, poursuit Patrick Veil, et s'il est persécuté, ce que je pense aussi par les États-Unis, il faudra donc trancher la question de savoir s'il peut demander l'asile constitutionnel depuis l'étranger. Je déduis de la récente jurisprudence du Conseil d'État que cela est maintenant possible. Et donc voilà, c'est ça qui est ainsi, c'est qu'il va y avoir sans doute aussi des changements par rapport au cas d'Edward Snowden, qui aujourd'hui effectivement est réfugié à Moscou.
Lancer l'alerte, c'est le titre du dossier consacré donc à Edward Snowden dans le dernier numéro de la revue Esprit, le numéro d'avril 2019, Catherine Portevin. Vous, c'est un numéro du mois dernier, mais c'est pas grave, je pense qu'on le trouve encore en librairie.
Encore en librairie, et puis on peut le commander sur le site des éditions Gallimard, la nouvelle revue française, qui a fait un petit dossier qui s'appelle l'effet miroir des années 30. C'est bien le moins qu'on pouvait attendre de la NRF, qui est évidemment la revue où les grands écrivains des années 30, Gide, Malraux, Valéry, Claudel, ont évidemment publié. Bon, le dossier lui-même, honnêtement, c'est un peu bricolé, avec des articles de qualité différente, très inégale. Mais moi, il y en a un que j'ai aimé parce qu'il est gonflé. Et on parlait tout à l'heure du ton pamphlétaire de Dubreuil un peu acerbe. Jacques Drillon, qui signe donc un article qui s'appelle « Hélas ». Et alors là, c'est évidemment, il y va carrément en disant que c'était mieux avant, qu'il joue complètement la nostalgie des années 30. Donc cette manière de prendre son monde à revers, je trouve ça toujours assez réjouissant. Et il le fait. C'est là où on voit la différence du style. Voilà, il commence dans les années 30, on ne savait pas encore la Shoah possible, enviable ignorance, de courte durée, mais toujours bonne à prendre. On pouvait compter sur le progrès, on pouvait voter à gauche, faire front populaire et pas encore national, sans avoir la certitude d'être trompé, et on pouvait encore dire, sans baisser les yeux, que c'était mieux avant. Voilà, cet article est complètement conservateur, il tape aussi sur les minorités et la dictature des minorités, mais il n'est pas indigné, et donc ça change tout.
Merci Catherine Portevin d'avoir fait le lien finalement entre nos deux livres, entre les années 30 et la dictature des minorités, entre Michael Fossel et Laurent Dubreuil, entre la dictature des identités et Récidive 1938. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet, à la réalisation aujourd'hui, Vanessa Nadjar, et à la prise de son, Alain Joubert. Vous pouvez réécouter cette émission sur la page d'Avis Critique sur franceculture.fr. Vous pourrez également vous abonner au podcast, télécharger l'émission. Il faut s'abonner au podcast. Dans quelques instants, Jukebox.